se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de grosses crevettes est à seulement 7,49€.
À ce prix-là, je vais en faire tout un plat.
De quoi vous faire de belles assiettes. D'ailleurs, vous m'en garderez une, hein ?
Bien sûr que oui.
Auchan, avec plaisir. 7,49€, le kilo de crevettes entières cuites réfrigérées. Penaus Vanamei, 25 à 35 pièces au kilo. Élevé en Équateur. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules. C'est avec aujourd'hui le restaurateur Stéphane Manigold, avec Flora Guebali, entrepreneur dans la transition écologique. Nous sommes accompagnés de Bruno Poncé. Bruno qui est cheminot et syndicaliste. Vous avez remarqué que les grandes gueules ont aujourd'hui le petit badge, le petit pins du SIDAction. C'est normal, nous sommes solidaires. Le SIDAction fête ses 30 ans.
Putain.
Et c'est une lutte qu'il ne faut pas abandonner, la lutte dans la recherche pour vaincre la maladie qu'est le SIDA.
Oui, 30 ans de combat, 30 ans d'espoir. Donc on est tous concernés et il faut rester mobilisés. Alors c'est très simple, c'est le week-end SIDAction. Si vous voulez faire un don, c'est le 110. Vous pouvez faire également un don par SMS au 92 110 92 110. Vous pouvez également faire sur internet sidaction.org. Il faut donner, il faut aider la recherche. 30 ans de combat, 30 ans d'espoir.
Tout à l'heure, à 11h20, nous serons avec quelqu'un qu'on connaît bien, nous, dans la boutique. Il s'agit du journaliste Vincent Vantinghem. Il est journaliste à BFM TV et il sort un livre qui s'appelle « Les défendre tous ». Il s'est intéressé à ces avocats qui, c'est leur rôle, défendre des causes parfois indéfendables. Oui. Et Vincent viendra tout à l'heure avec l'avocat de Michel Fourniret.
Oui, on se demande toujours
Maître
Vavasseur. Comment on peut défendre un Fourniret ? Comment on peut défendre Cécile Bourgeon qui a tué sa fille Fiona ? Comment on peut défendre des gens qui sont a priori indéfendables ? Et donc ça, c'est une question que Vincent Vantinghem a posée aux avocats. Et on aura donc l'un d'entre eux, l'avocat de Michel Fourniret, le tueur en série, peut-être l'un des plus grands criminels de l'histoire de France. Oui, et donc, peut-être du monde. Ah, ouais. Et on verra comment un avocat peut faire ce boulot de défense.
Comment il récupère le dossier de Michel Fourniret, comment il s'attelle à sa défense.
Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant comme sujet et je comprends que ça fascine les Français. Moi, j'ai fait des études de droit et en fait, c'est vraiment pour cette raison que je n'ai pas voulu devenir avocate parce que je me suis dit, je ne vais pas défendre des personnes qui sont coupables ou que je juge coupable ou que je suspecte d'être coupable. Et après, heureusement, il faut de tout pour faire une société. Donc, j'admire et je respecte les avocats qui font ça. Mais c'est vrai que moi, c'était ma barrière tout de suite. Je me suis dit, oula, je vais changer de voie. C'est pas ça que je vais faire, quoi.
Vincent Vantinghem et Maître Vavasseur, l'avocat de Michel Fourniret, tout à l'heure à 11h20 dans les GG, dans les grandes gueules. Parlons politique ou plutôt parlons médias et politique.
RMC, les grandes gueules.
Parce que vous savez qu'à l'Assemblée nationale, on s'est mis en tête de regarder un peu la manière dont les médias reçoivent leurs invités, qu'ils reçoivent, qu'ils ne reçoivent pas, si les chroniqueurs font valoir une opinion, oui ou non, s'il faut les comptabiliser, oui ou non. Et là, c'est une émission et un animateur qui vont se retrouver sur la sellette, c'est Quotidien, Yann Barthès.
Oui, parce que c'est la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences TNT. Cette année, alors j'explique parce que c'est assez technique, les fréquences TNT vont être réattribuées. Donc cette commission d'enquête de parlementaires veut auditionner. Alors jusqu'à présent, on avait l'impression que cette commission d'enquête était surtout axée sur Vincent Bolloré et ses animateurs, puisque Vincent Bolloré a été entendu, mais aussi Cyril Hanouna, Pascal Pro, Laurence Ferrari, etc. Et certains soupçonnent d'ailleurs cette commission d'enquête, dont le rapporteur est un député de la France Insoumise, M. Saint-Toul, d'avoir une fixette sur les chaînes Bolloré. Et là, finalement, grâce à ce député RN, et à mon avis, il va rendre service à cette commission d'enquête, Thomas Ménager, puisque Thomas Ménager a souhaité entendre Yann Barthès et son chroniqueur média Julien Belvert. Pourquoi ? Parce que Barthès et Belvert ne cessent de répéter qu'ils ont décidé de ne pas recevoir des députés RN, des élus RN. Vous ne verrez jamais Marine Le Pen, vous ne verrez jamais, d'ailleurs, Éric Zemmour non plus, sur le plateau de Quotidien. Ils l'assument, on les aime pas, on les reçoit pas. Et alors pour s'en sortir, parce qu'il faut quand même équilibrer les temps de parole, comme dans toutes les émissions, comme chez nous, eh bien ils diffusent des sons, des bouts d'interviews, etc. Mais ils sont jamais invités. Et donc Thomas Ménager a dit, ça serait bien qu'ils s'expliquent. Et donc Barthès et Julien Belvert seront bientôt auditionnés par cette commission. émission d'enquête pour comprendre pourquoi cette émission, qui est certes une émission de divertissement, mais aussi une émission politique et d'information, boycotte une partie de la classe politique.
Alors, est-ce que, effectivement, il faut leur demander des explications? Est-ce que ça vous semble normal, pas normal, Bruno?
Ben, moi déjà, c'est leur ligne éditoriale, ils font ce qu'ils veulent. Et puis moi, je rappelle aussi à tout le monde qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand le quotidien, et même avant, quand Yann Barthès faisait le petit journal, dès qu'ils allaient au meeting du Front National, ils étaient reçus souvent très mal, voire même violemment. Donc je pense qu'à un moment donné, tu peux te dire quand même que tu n'as peut-être pas envie de recevoir ces gens-là chez toi quand tu es aussi mal reçu chez eux. Et puis après, ben, c'est leur ligne. Et en fait,
donc
et
moi, faut accepter que les autres se fassent pareil.
Ouais, voilà, si les autres veulent faire pareil. Et Cyril Hanouna était très malin parce qu'il a dit, moi, je dis pas à la France Insoumise de pas venir, mais vu ce qui se dépassait avec Boyard, les autres ont plus envie de venir. Mais à un moment donné, il en a quand même payé quelques-uns à être chroniqueur autour de sa table. Donc en fait, Hanouna, il a été très fin. Après, Yann Barthès, moi, je comprends aussi que son émission, c'est pas une émission où le débat politique est mis en avant. Lui, son émission, c'est plutôt de se foutre de la gueule des gens qui, des fois, disent une connerie et que derrière, après, ils s'amusent et puis les brocardent. Donc en fait, mais c'est bien qu'il aille témoigner parce que je pense que ce que lui va dire, ce sera autre chose que de dire, ah ben moi, je fais jamais rien de mal. Lui, il assume son truc et il le dira. Et après, chacun son
temps. Oui, mais c'est marrant parce que ne reprochons pas alors à CNews ce que Quotidien fait. Moi, pour moi, Quotidien, c'est le CNews de gauche. Et ça me choque pas, moi, c'est Quotidien, ils assument, ils ont une ligne de gauche. CNews, ils ont plutôt une ligne de droite. Mais dans ce cas-là, arrêtons de faire ce procès à CNews, ou alors il faut faire le procès à tout le monde.
Tu le fais pas.
Mais dans certains médias et dans l'opinion, dans certains cénacles, on fait vraiment le procès de CNews. Mais dans ce cas-là, il faut faire le procès de Quotidien. Enfin, sinon, c'est pas.
Si t'aimes pas une chaîne, tu la
regardes. Ou alors de France Inter.
Si t'aimes pas une chaîne, tu la regardes pas.
C'est France Inter, c'est plus embêtant parce que c'est une chaîne publique. Mais France Inter a une connotation de gauche.
Les gens de gauche trouvent ça de droite, donc.
Mais Akili, il était quand même pas sur ces news.
On peut citer toujours trois personnes. Mais.
Il faut quand même remettre dans le contexte parce que en 2023, Nicolas Dupont-Aignan avait déjà saisi l'Arcom concernant la politique d'invitation de Quotidien et l'Arcom avait répondu que les règles du pluralisme s'appliquent à l'ensemble de la programmation d'un service et non au programme spécifique. Donc la réponse, on l'a déjà. C'est pas une émission. Après que publiquement,
c'est la seule émission sur TMC qui fait des.
Oui,
des
mais qu'après là où même si l'Arcom, si je peux terminer, même si l'Arcom s'est déjà positionné sur ce sujet, là on a quand même un animateur, enfin on a deux animateurs qui publiquement disent je n'inviterai pas. C'est pas la même chose. On n'est pas dans le même contexte et je pense que là ils franchissent peut-être un pas de trop à mon goût pour dire bah non j'invite pas. Moi je vais. Dialoguer partout, tu vois, il y a pas de, tu choisis pas. Si on t'interroge, tu réponds. Après, tu t'assures. Et surtout que l'émission elle est en direct. Donc quand t'es en direct, bah il y a pas de coupe. Comme les GG, on est en direct. Bah s'il y a un dérapage, ça se voit. Et s'il y a pas de dérapage et que l'émission est enregistrée, bah tu coupes. Et là, c'est gênant. Mais là, c'est du direct. Donc je vois pas pourquoi il serait privé de cette émission.
Flora.
Ma bonne foi m'oblige à vous dire que je suis mal à l'aise avec les espaces politico-médiatiques où on n'assume pas vraiment de défendre une position politique. Et en même temps, bah, tout le monde défend une position politique et c'est plutôt sain. Vous voyez bien, parmi les grandes gueules, par exemple, que vous voyez
pas
bien.
Tous pareil.
Oui, mais surtout, vous voyez bien à peu près pour qui on, enfin, pas forcément des personnes ou des partis, mais vous voyez bien à peu près quelles sont nos idées. Moi, par exemple, je vais vous annoncer que je suis écolo. Bon, bah, qui est surpris, qui est surpris au GG? Et Bruno, qu'il est gaucho, qui est surpris au GG?
Bon. LFiste.
Non, il est pas LFiste. Ça, c'est pas vrai, tu vois. Bah, c'est ça la nuance. C'est ça la nuance. C'est justement ce qui se passe au bureau de vote. Au bureau de vote. Par contre, les idées, les idéologies, voilà. Et aujourd'hui, il y a un grand débat qu'on doit ouvrir sur ça, parce que effectivement, Quotidien diffuse une ligne éditoriale, un choix éditorial. Par contre, en fait, on est en train de sortir de la diabolisation du rassemblement des idées du Rassemblement national, parce qu'il y a 89 députés Rassemblement national à l'Assemblée.
Deux fois, deuxième tour.
Oui, alors 42% mais des Français. Laissez-moi finir. On est en train de sortir de ça parce que dans la représentation politique, ils sont élus et ils sont 89 sièges au Parlement. Donc on est obligé de sortir de ça parce que c'est le jeu de la démocratie. Donc à un moment, moi, je suis plus démocrate que écolo. Donc je suis obligée de vous dire, sinon je ferai de la propagande verte et ça m'irait bien. Mais c'est pas le cas. Je crois qu'on est obligé. On est 70 millions dans ce bordel. On est obligé de composer tous ensemble. Non, bah oui, c'est un bordel. T'as pas remarqué? Donc, non, mais voilà. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est où est-ce qu'on trouve des points d'accord. d'accord avec un maximum 51% des Français.
Et peut-être que,
donc
peut-être,
on est obligé, oui, oui. On est obligé, oui, de tenter le pluralisme. Après, juste terminerai là-dessus. Léon Blum, quand il a témoigné au procès de Pétain, alors qu'il a été un grand homme politique, on lui a dit quel est votre métier et il a dit journaliste. Léon Blum, il signait un édito politique dans la presse tous les jours. À l'époque, on avait beaucoup moins de regard là-dessus. Et en fait, c'est vrai que pour faire avancer des idées, pour faire avancer une société, c'est aussi important que ce soit un petit peu hybride.
Je dis pas qu'on
va forcer les journalistes à la présidentielle, mais que ce soit un petit peu hybride par moment.
Voilà. Mais peut-être qu'il faut foutre la paix aussi aux ces émissions. Peut-être que le politique se mêle de ce qu'il ne regarde pas. Moi, personnellement, je trouve que ces politiques, ils ont autre chose à faire. Moi, des commissions d'enquête, il y en a plein à faire. Sur le piratage de France Travail, il y aura une bonne commission d'enquête à faire.
Le piratage du canard enchaîné.
Il y a plein de commissions d'enquête à faire. Que font les, en fait, les politiques sont fascinés par les médias et ils ont toujours voulu contrôler les médias. C'est vieux comme le monde.
Ouais,
je trouve qu'aujourd'hui, en 2024, avec Internet, où alors rien n'est contrôlé, c'est le Far West, quand même, t'imagines cette commission d'enquête, elle passe des heures, voire des semaines, à écouter des animateurs.
On va parler avec Olivier.
C'est quand même dingue.
Olivier qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour, Olivier.
Bonjour à tous.
Alors, est-ce que vous trouvez normal que Yann Barthès n'invite pas de RN et qu'on lui pose la question à l'Assemblée nationale?
Alors, je ne trouve pas que ça soit normal qu'il n'invite pas des gens du RN, et surtout qu'il s'en affiche ouvertement. Et pour moi, ça paraît logique qu'il soit entendu par une commission d'enquête. On a cassé CNews, on les a démolis au niveau de la place publique, parce que eux invitaient des gens, mais les gens ne venaient pas, parce que comme ce qui a été annoncé. Et c'est totalement différent de dire on invite des gens, ils ne viennent pas. Donc, effectivement, on n'a pas la représentation de différents partis ou de différentes personnes sur un plateau. Et de là à dire, crier haut et fort, non, je les invite pas, bah, je suis désolé, pour moi, c'est un déni de démocratie, je veux dire. Ils ont été, que ce soit le parti, que ce soit le groupe Rassemblement National, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bella, enfin bref, peu importe du parti. On invite des gens, je veux dire, pour que tout le monde puisse discuter. Alors, est-ce qu'ils ont peur de la discussion? Je ne sais pas, je ne pense pas, parce qu'ils ont l'air assez, je veux dire, dans le dialogue. Mais je ne conçois pas, en fait, ce sectarisme. Moi, je suis désolé, mais
Olivier, moi, je vous entends, mais CNews, ils ont été malins, parce qu'à un moment donné, CNews, c'est comme si vous vous dites, dimanche, je fais un barbecue, puis vous invitez un poulet à table. Je pense qu'à un moment donné, c'est où il va finir, en fait. Moi, j'étais sur CNews. J'étais sur CNews plein de fois avant que Zemmour y arrive en tant qu'éditorialiste, comme ça. Après, là, j'ai arrêté. Et moi, j'étais très bien reçu par Pascal Praud. Je me suis retrouvé dans des débats où, évidemment, c'était moi qui étais sur le bûcher. Bah, c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu, c'est comme ça.
D'accord, mais sur le fond, regardez la dernière fois, parce que moi, je regarde tout ce qui passe à la télé sur la politique, que ce soit de gauche, de droite et de tout ce qu'on veut. Quand Jordan Bardella est passé la dernière fois avec Duhamel, il s'est fait lapider pendant je sais pas combien de minutes. Écoutez, il était quand même présent aussi. Donc, ce que vous avez fait en étant invité et en ayant pris plein d'immirettes, parce que effectivement, vous avez été attaqué, je suis désolé. Si, en tout cas, s'il les invite, sachant en connaissance de cause que c'est plus à gauche et qu'ils vont se faire démolir pendant 40 minutes à coup de questions tendues, mais s'ils y vont, qu'ils acceptent, mais au moins, ils ont été invités. Et après, s'ils se font démolir et qu'ils perdent la face, entre guillemets, tant pis pour eux. Mais au moins, ils y sont allés.
Oui, exactement.
Que là, par contre, il y a le refus complet d'inviter les gens.
Oui, mais le problème, c'est un peu tordu parce que la loi nous oblige, nous médias, à recevoir tout le monde, à équilibrer le temps de parole. Je peux vous dire que on prend ça très, très, très au sérieux. Il y a même gens ici qui sont payés avec chronomètre à la main pour calculer combien de LR on a fait, écolo, etc. Bon. Et puis de l'autre côté, les politiques, eux, n'ont aucune obligation puisqu'ils peuvent, ils peuvent boycotter une émission, ils peuvent boycotter une chaîne de télé. Je vois que Raphaël Glucksmann ne veut pas les débattre sur CNews, il y avait un débat prévu, bon très bien. Ouais. Mais vous voyez, c'est un peu deux poids, deux mesures. Moi je pense qu'il faudrait laisser foutre un peu la paix aux médias, leur faire confiance, faire confiance aussi aux téléspectateurs, parce que le téléspectateur, il voit lui-même, c'est le premier juge. S'il trouve que à Quotidien, bien, ça serait bien qu'il y ait Marine Le Pen, il le fera savoir. Et s'il trouve au contraire que Quotidien, c'est bien sans Marine Le Pen, mais très bien, les audiences sont très bonnes. Je veux dire, foutons un peu la paix à tout le monde.
D'accord,
on est vraiment dans un pays où on veut tout réglementer.
J'aimerais juste rajouter. Pareil pour CNews à ce moment-là.
Mais pareil pour tout le monde.
CNews, ils invitent tout le monde.
Je suis d'accord, pour tout le monde.
Enfin, je vous signale justement que CNews, ils se sont retrouvés devant une commission d'enquête parlementaire en leur demandant qu'est-ce que c'est que ces manières de faire la télé.
Du patron aux animateurs.
Et les questions posées,
c'est inédit.
Oui, mais ils ont été condamnés. Enfin, le truc au départ, c'est que.
Je suis désolé.
Mais à un moment donné, ils ont été condamnés. Donc, à un moment donné. Et puis, il faut aussi. Non, mais moi, j'ai vu des fois, moi, je regarde des fois CNews pour savoir ce qui se dit dans le camp que j'aime pas. Et je vois des trucs des fois, je me dis, voilà, copain, c'est quand même limite condamnable par la. je veux dire,
moi,
c'est de la faute des musulmans. Moi, je sais pas, chaque fois que je vois ces news, c'est de la faute des musulmans.
Non, mais je suis désolé. À un moment, je suis désolé.
C'est pas ton idéologie, mais sincèrement.
Oui, mais en fait, il faut laisser la main et la liberté des médias de faire ce qu'ils veulent. Tu as raison.
Dans le cadre de la loi.
Attends, dans le cadre de la loi. Par contre, il y a un gros biais journalistique sur ces news. Parce qu'à un moment, Quotidien ou France Inter, ils parlent des sujets qui font l'actualité. Est-ce qu'ils ont un biais? Est-ce qu'ils ont, ils font des préférences éditoriales? Attends. Est-ce qu'ils font des préférences éditoriales parfois? Certainement. CNews, je vous jure, vous regardez CNews pendant trois mois tous les jours. Vous êtes sûr que la France brûle de partout?
Non, mais t'es pas obligé de la regarder.
À un moment, il faut pas mentir.
T'as une chaîne privée, t'as une
Attendez, on rappelle que CNews, ils ont expliqué il y a 15 jours que la plus grande cause de décès au monde, c'était l'avortement. Donc à un moment, c'est de la propagande. Oui, c'est jamais arrivé chez Altice.
Florent Guébali. La différence entre CNews, Quotidien et France Inter, c'est que Quotidien et CNews, ce sont des chaînes, Quotidien sur TMC, ce sont des chaînes privées. C'est pas ton argent. France Inter, c'est ton argent. Yeah. C'est l'argent des impôts. Ça devrait donc, en gros, refléter un peu l'opinion publique dans sa,
là, tu te trompes,
son intégralité.
Je te rappelle quand même que les médias, j'ai subventions.
Je vais terminer. Ah ouais. Non, pas la télé, tu te trompes. C'est les.
Ouais, après,
c'est
écrit. Mais Bolloré n'a pas que de la télé, donc à un moment donné.
Oui, non. France Inter devrait tenir compte. Je pense que tout le monde ne vote pas à gauche.
Là, je pense qu'on est quand même. Je pense qu'on est quand même sur un délit là, pour le coup. C'est-à-dire que quand publiquement tu animes une émission et tu dis clairement qu'en raison de la couleur politique.
Non, Olivier, t'as dit qu'il avait les trucs d'extrême droite.
Attends, vas-y. Quand ça s'appelle la discrimination. La discrimination, c'est pour la couleur, pour tes opinions, tu ne peux pas être discriminé. Et d'ailleurs, je me souviens d'une scène de Florent Philippot qui avait été refusé par un restaurateur, un serveur, qui a dit « Non, je partage pas vos idées ». Ça avait fait un tollé dans les médias. Oui, moi j'aime pas Florent Philippot, mais s'il vient chez moi, bah il mangera et il sera très bien reçu. Et c'est normal parce que je ne peux pas faire de la discrimination. Et ce que fait là, et je l'aime beaucoup Yann Barthès, mais ce qu'il fait là, c'est de la discrimination. Regarde des idées politiques qu'il partage pas. Imagine, c'est pas normal.
Bruno Poncet, si ici on disait, bah nous à RMC, on a décidé de pas recevoir les écologistes. Voilà, on le veut pas, etc. Tu lui dirais, c'est pas normal. Finalement, ce qu'on accepte. Ce qu'on accepte d'un côté, on l'accepte pas de l'autre. C'est choquant.
Moi, je te répondrai à ce que tu as dit tout à l'heure, très justement. Tu as dit, Yann Barthès ne les reçoit pas, mais il prend quand même des extraits pour répondre à l'ARCOM.
Voilà. Ça s'appelle être faux cul.
Voilà, exactement. Et ben, vous ferez pareil, vous prendrez des extraits.
Non, parce que nous, on les reçoit.
C'est pas bon, parce que demain, Marine Le Pen, elle est au pouvoir, j'accepterai pas et je me lèverai si elle va frapper Yann Barthès en disant son émission, je veux la réglementer, je veux machin. Je me lèverai autant.
Yann Barthès, est-ce qu'il a raison? Merci à Olivier d'avoir été avec nous, Yann Barthès. Est-ce qu'il a raison de ne pas recevoir les gens du RN? On a posé la question sur les réseaux sociaux, on en a parlé un quart d'heure en attendant l'audition à l'Assemblée nationale. Non, il a tort. 75 a-t-il raison de refuser? Non, oui, c'est ça. Donc non, il a tort. 75%.
La question est dans
oui. Même nous on n'a pas compris la question.
Dans un instant.
Ne fallait-il pas ne pas le recevoir en l'invitant.
La formate négative, c'est jamais très bon. Dans un instant avec les Gigi, on va s'intéresser à cette cantine d'Eure-et-Loire. En fait, écoutez bien l'histoire. Comme elle était intégrée dans la communauté de communes, la cantine, elle bénéficiait des subventions locales. Là, elle en est sortie. Et donc, on a dit aux parents, bah, le prix de la cantine, il double. Oui, triple. Voilà, vous allez payer le vrai prix. Et là, c'est 12 euros. Et les parents gueulent. Eh ben, on en parle au 32-16.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Ouais. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste, Flora Guébali, entrepreneur dans la transition écologique, Stéphane Manigold, restaurateur. On va à la cantine. Allez hop.
RMC, les grandes gueules.
Oui, on va à la cantine parler de ce qui arrive du côté de Chartainvilliers. Nous sommes dans l'Eure-et-Loire où le prix de la cantine a doublé. On va vous expliquer pourquoi, mais les parents font la gueule.
On est à l'encontre de la Convention des droits de l'enfant qui dit que chaque enfant doit être égalitaire. Est-ce qu'avec une cantine à 12 euros, on considère que les enfants sont égalitaires?
En nous prévenant à 3 jours avant la rentrée, il a fallu trouver des solutions. C'est très compliqué, notamment lorsqu'on est en télétravail, c'est voire impossible.
On peut le faire temporairement jusqu'à ce qu'on trouve une solution, mais on ne pourra pas le faire régulièrement à vitam aeternam.
Je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines. Et même si la viande est comme du caoutchouc, au moins je suis sûr de rigoler
un bon coup. Alors, nous sommes donc à Chartainvilliers. Nous sommes en Eure-et-Loire où le prix de la cantine a doublé en ce mois de mars. Alors,
c'est vrai quand même que la méthode pose problème parce que les familles auraient appris le 8 mars dernier que le tarif doublait le lundi suivant, soit seulement 3 jours plus tard. Donc c'est vrai qu'elles n'ont pas le moyen de se retourner et c'est un peu rapide. Donc certaines d'entre elles ont décidé de retirer leurs enfants de la cantine. Plusieurs d'entre elles se sont même organisées pour accueillir les enfants à déjeuner, chacune à leur tour, et permettre aux parents de continuer à travailler. C'est d'ailleurs la solution si on trouve que c'est trop cher. Alors pourquoi le prix a doublé? Parce que c'est un problème de fin de versement de subvention par la commune de Chartainvilliers en raison d'un regroupement intercommunal. Et donc, on va appliquer en quelque sorte un peu le vrai tarif de ce que mangent les enfants sur place. On passe de 6,21 € à 11,92 €. Est-ce que vous comprenez cette décision? Est-ce que c'est pas aussi l'occasion de lancer un débat sur le vrai prix de ce qu'on mange? Parce que là, c'est un peu des injonctions contradictoires. On voudrait payer le moins possible la cantine de nos enfants et en même temps, on voudrait qu'ils mangent bio, qu'ils mangent équilibré, qu'ils aient chaque jour un peu de tout, qu'ils aient le choix également. Mais il faudrait que ça coûte 1 ou 2 €. Bah là, peut-être que c'est pas possible et que il faut peut-être aussi ouvrir les yeux.
Stéphane. J'ai cherché en fait à savoir si c'était des cuisiniers dans cette cantine scolaire qui cuisinaient plats frais et de saison, ou si c'était encore comme beaucoup malheureusement une cantine scolaire organisée par la collective au fond la malbouffe quoi. Et j'aimerais saluer un ami qui est un chef exceptionnel qui s'appelle Olivier Rollinger, qui avait signé une préface dans un bouquin qui s'appelle Plat de résistance, soigner les cantines pour réparer le monde. Et il a totalement raison parce qu'on creuse sa tombe avec ses dents. Et on le voit, nos gamins, lorsqu'ils mangent mal à la cantine, nos enfants,
de mauvaises habitudes.
De mauvaises habitudes. On a plein d'allergies, des allergies au gluten, etc. Toutes ces maladies, toutes ces allergies qui surviennent, qui sont aujourd'hui des obligations, on est obligé, nous, d'afficher les allergènes parce que justement, les gens ont de plus en plus d'allergies. Mais pourquoi? Parce qu'on a vachement industrialisé les cantines. Et j'ai discuté avec Olivier Rollinger, il y a le sujet des cantines, mais tu as également le sujet des prisons. Dans les prisons, c'est que de la bouffe industrielle. Et après, on se dit, les mecs, quand ils sortent de prison, c'est des récidivistes. Mais en même temps, le mec, tu lui as donné de la merde pendant 10 ans. Et tu vas m'expliquer que peut-être, mais tu vas m'expliquer que le type qui tourne en rond dans sa prison de 6 mètres carrés, on peut pas l'occuper, aller cuisiner. Et je vais te dire un truc, Olivier Rollinger, dans sa ville avec la mère, ils ont fait un travail superbe. Ils ont viré la malbouffe, ils ont fait du fait maison et les parents, ils ont gagné 1 € par repas. Que des produits frais, que des produits locaux, qu'avec les artisans locaux. Il a fait un super travail, et bien que tout le monde le fasse.
Mais est-ce qu'il faut accepter du coup de, pour mieux manger, payer plus cher? Parce que là, la subvention publique a été retirée, ce qui dit aux parents, c'est si vous voulez que je continue d'asservir, mais d'assurer ce service, c'est plus cher.
Mais tu sais que, alors je ne parle pas de la main-d'œuvre, mais à 12 euros, tu fais un plat exceptionnel hein, en matière première. C'est énorme. Nous, 12 euros, c'est énorme si on doit acheter des matières premières.
Flora.
Vous connaissez l'adage « l'enfance décide ». Ce qu'on découvre enfant, ce qu'on s'apprivoise enfant, va nous guider au long de notre vie. Quand enfant, on n'apprend pas à bien manger. Moi, j'irais même plus loin que Stéphane. Il faut bien manger à la cantine. Pour moi, il faut même donner des cours de cuisine aux enfants et leur apprendre à se faire à manger.
C'est une idée d'Olivier Grégoire.
À ne pas acheter des produits transformés. À prendre du temps sur le soin de ce qu'on se met dans le corps. C'est très important. Donc, il y a évidemment un enjeu de santé. Après, il y a un enjeu de prix. Pas tous les enfants ont la chance d'avoir des parents qui ont le temps de cuisiner et les moyens d'acheter des bons produits. Donc, pour moi, l'État, ça a toujours été un rempart. Mais alors, peut-être que j'ai une vision naïve et obsolète de l'État. Mais avant, l'État était un rempart pour aider les familles, pour aider les enfants. Et donc, parce qu'à la maison, on ne mangeait pas toujours comme on veut, c'était à la cantine qu'on était censé bien manger. Le problème, c'est qu'en donnant des trucs qui sont mauvais au goût et pour la santé, les enfants, ils se gavent de pain. Vous savez, aujourd'hui, toutes les études montrent que la farine transformée qu'on importe d'Ukraine aussi, elle est hyper mauvaise, elle développe des intolérances au gluten, elle est surtout pas du tout nutritive. Il faut manger du blé complet.
C'est un bilan carbone catastrophique.
C'est un bilan carbone catastrophique. Enfin, tout est catastrophique. Et pour moi, la cantine, c'est un des sujets les plus intéressants de la transition écologique.
Même à 1 euro. Parce que la cantine, c'est 1 euro, 1,50 euro le prix moyen.
Oui, parce qu'elle est subventionnée.
Bah oui, mais en fait,
parce
mais
qu'elle
oui.
est subventionnée
mais en fait,
et qu'on achète
en fait, on
en
masse invente le prix
dans
des choses.
La restauration collective.
Non, on c'est invente le
parce
prix
que les
des
cantines
choses.
Sont urbaines.
Si on était capable de faire des cantines
cher,
en circuit
fait,
court, de créer de l'emploi local, si on arrêtait les gros monopoles qu'ont les géants de la distribution alimentaire comme Sodexo.
L'industrie agroalimentaire.
Si l'industrie agroalimentaire, si on était capable de donner à des riverains du coin la gestion de la cantine avec des producteurs locaux, on aurait des cantines qui seraient meilleures et qui seraient moins chères qu'aujourd'hui. Et les agriculteurs se porteraient mieux. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut régler tous les problèmes en même temps. C'est ça le truc, le concept d'une crise systémique.
D'accord.
Il y a tout un système qui dysfonctionne. Donc aujourd'hui, on peut aider l'emploi local, on peut aider les producteurs alimentaires, donc tout ce qui est agriculteurs, etc.
Baisser
on peut
le
aider
carbone.
Les circuits courts, baisser notre bilan carbone, aider les enfants du coup, aider leurs parents, parce que quand leurs enfants
sans
mangent mieux, ils se portent
cher.
Mieux.
Oui,
sans
je te
que
le garantis.
Ça coûte plus cher,
d'accord.
Je te le garantis.
Ah ouais. On va faire un duo avec Flora. Bah, tu vois.
Faites un. Ouais,
tu sais quoi, on va faire un duo sur la bonne bouffe.
Faites un projet.
Oui, enfin malheureusement, le gouvernement nous écoute pas beaucoup.
Bruno Poncé.
Moi, j'ai juste fait un calcul simple, 12 euros par jour, 4 jours par semaine, ça fait 200 balles par mois. Quand t'es une famille où t'as deux gamins et que le couple à deux gagne à peine 3000 euros à deux, bah tu te dis que ouais, leurs gamins risquent pas d'aller manger à la cantine longtemps, qu'ils vont les ramener à la maison et puis leur filer des pâtes ou les emmener chez la grand-mère et tout. Moi, quand j'étais pion, j'avais une gamine un jour qui était à la cantine, elle était en quatrième techno. La gamine était à la cantine et ça se passait bien et un jour, elle nous dit j'arrête la cantine. Bah, je dis bah, pourquoi et tout, bah, elle me dit j'arrête la cantine parce que ma maman... Ben, elle préfère prendre l'argent, quoi, parce qu'elle était, était mère seule et tout. Elle préfère prendre l'argent et je mangeais à la maison. Mais par contre, on ne mange plus le midi. Donc voilà, donc, la cantine, ça reste le truc où il faut que les gamins viennent, parce qu'au moins, ils ont fait un repas.
Il faut que ce soit gratuit, en fait, la cantine pour les gamins, notamment.
Moi, quand j'étais gamin, la cantine de mon village, c'était ma voisine qui faisait à bouffer gratuitement, bénévolement. Donc, et on ne payait pas très cher, mais elle venait faire manger. Donc, effectivement, tu as plein de solutions. Dans des villages comme ça, pour éviter que les gamins payent 12 euros.
Regardez dans la série sur Bernard Tapie, qui est vachement bien, qui s'appelle Tapie, quand Bernard Tapie, il dit, si on veut sortir les jeunes des banlieues de la galère, il faut faire un plan goûter. Il faut que les grand-mères des quartiers, elles se mettent dans la rue, et elles fassent des tartines, et elles donnent des bonnes choses aux enfants. Parce que lui, il parle de son expérience personnelle, et il dit, moi, quand j'étais enfant, c'est que parce que ma grand-mère me faisait des bonnes tartines, que j'ai pas traîné en bas des blocs, et que j'ai pas commencé à faire n'importe quoi. L'alimentation, surtout en France. Il a quand même fait n'importe quoi.
Il mangeait plus de tartines.
Il a fait n'importe quoi, mais avec
il bouffait celle des autres.
Non, mais en fait, si vous voulez, à un moment, l'alimentation, c'est au cœur de tout. Surtout en France, on est le pays de la gastronomie. Soyons fiers de nos agriculteurs. Soyons fiers de nos produits locaux. Quelle est la plus grande fierté pour un agriculteur que de nourrir l'école du coin?
Oui, on est d'accord avec ça, mais la question.
Tu l'as vu comme moi, Olivier, les agriculteurs, ils ont un problème de fierté. Ils ont un problème de valorisation de leur travail.
La question, c'est qui paye. Soit on rend la cantine gratuite,
exactement.
Et donc c'est tous les Français qui payeront. On vient de parler de déficit. On vient de parler de déficit, de dette, etc. Donc c'est des choix de société. Soit il faut payer le vrai prix. Et là le problème c'est qu'on est dans un truc où on n'a pas tranché. C'est-à-dire qu'on fait un peu payer, mais pas complètement parce qu'on paye pas le vrai prix. Donc à mon avis tranchons. Soit on pense que c'est un effort que doit faire la collectivité, une priorité. Donc c'est gratuit pour tout le monde. Bon, même ceux qui ont de l'argent. Soit il faut payer et il faut payer peut-être un peu plus cher.
Le texte qu'on défendait sur la transparence c'était aussi pour les cantines scolaires. Parce que les parents, quand ils emmènent leurs enfants, on me dit que c'était un texte de riche, que c'était pour les étoiles Michelin. Mais les parents du 93, quand ils emmènent leurs enfants dans une cantine scolaire, ils ont le droit de savoir ce que leur gamin mange. Pourquoi ? Parce que tu peux pas avoir la même égalité de chance de réussir dans la vie si tu manges mal, si tu as une mauvaise alimentation. Et il faut sortir de cette caricature qui consiste à penser que bien manger, local, c'est cher, c'est faux. Ça, c'est les industriels qui ont mis ça dans notre tête, c'est archi faux.
Alors, on va en parler avec Eric. Bonjour Eric.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire là? Bon, on a compris le mécanisme, il n'y a plus la subvention de la communauté de communes, donc le prix double. Qu'est-ce que vous en dites?
Moi, le souci, c'est qu'à chaque fois, on parle toujours des cantines. Quand on a un problème à l'école, c'est les repas. Mais je pense que dans les pays anglo-saxons,
oui,
les enfants peuvent ramener leur box. Pourquoi oui, on n'a pas, les enfants peuvent pas amener leur box le matin, on leur met des,
oui, ça, c'est vrai
des frigidaires, ils viennent avec leur box, comme ça, il n'y a pas de souci.
Oui. Les enfants, oui, ça serait une solution aussi.
Et comme ça, alors déjà, j'aimerais savoir qui cuisine les box, parce que ça va encore coûter aux femmes qui ont déjà, vous savez, un foyer avec un enfant en moyenne en France, c'est 7 heures par semaine de charge domestique pour le père, 28 heures pour la mère. Donc si on doit rajouter 30 heures, si on doit rajouter 2 heures pour faire les lunchbox des enfants, c'est pas terrible. La deuxième chose, c'est que ça va augmenter les inégalités. Au moment où on parle de la tenue unique et de l'uniforme, vous allez augmenter les inégalités sociales parce qu'il y en a un qui va arriver avec un fessin, les super gâteaux à la mode, etc.
Et l'autre qui va fumer. Si vous faites des enfants, vous devez les assumer. Donc, qui mange chez vous ou qui mange à la cantine, le problème, il est où? Puisque vous leur préparez à manger. Pourquoi ce sera toujours la société qui paye pour... Vous faites des enfants, c'est un choix que je respecte, il n'y a pas de souci. Vous faites à manger le matin, ils partent avec leur box.
Oui.
Je suis désolé, à chaque fois qu'on parle des problèmes de l'école, on parle plus, alors on occupe les problèmes de maths, les niveaux scolaires, on parle que des problèmes de cantine. Les gens qui mangent à halal, cachère, ils font leur repas, ils ont leur box, et comme ça on occupe le problème, il n'y a plus de soucis. Que vous faites des coquillettes, il y a des micros à disposition, ils mettent des micros à disposition, les enfants mangent. Dans les pays anglo-saxons, ça fonctionne très bien, dans les pays nordiques, ça fonctionne très bien.
Éric, on se trompe un peu de sujet, et on nous met toujours dans la tête que pour aller mieux, faut dépenser plus. Moi, je dis simplement, c'est pas ça. Il faut dépenser mieux. On donne aujourd'hui ce qu'on appelle l'ARS, l'allocation d'entrée scolaire. Moi, je suis pas favorable à ce qu'elle soit donnée aux parents. C'est pas très populaire ce que je dis, ni les bourses d'ailleurs. Quel est l'objectif de l'ARS, de l'allocation d'entrée scolaire? C'est que l'enfant puisse avoir un cahier, une trousse, un cartable, des vêtements pour aller à l'école, s'acheter ses livres et les stylos et tout le matériel nécessaire. Eh bien, moi, je propose justement de donner cet argent aux villes, aux régions, que ce soit les régions qui fournissent à l'enfant tout le matériel nécessaire, l'uniforme scolaire, etc. Et qu'avec les économies que tu réalises, eh bien, tu verras que ta cantine, elle sera gratuite pour ces gamins boursiers. Et en fait, c'est juste mieux employer l'argent plutôt que de le jeter par les fenêtres.
Merci, Eric. On avait Guillaume qui voulait intervenir, qui est chef de cuisine en collectivité et qui voulait nous raconter que son prix de revient d'un repas est à 2,50 en matière première, mais le service coûte aussi 10 à 12 euros à la collectivité. Voilà, donc il arrive à servir 40% en bio, mais tout ça, ça a un coût. Donc voilà.
Et ça va être intéressant de l'écouter.
Là, malheureusement, on n'a plus le temps parce qu'on va parler de quoi? Des impôts dans un instant. Allez. Est-ce qu'il faut augmenter les impôts? Tout de suite au 32-16.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Je vous rappelle le rendez-vous tout à l'heure à 11h20 avec notre camarade Vincent Mantinghem. Il est chroniqueur judiciaire, vous savez, ça fait partie du service police-justice de BFM TV. Et Vincent, il sort ce livre où il a rencontré les avocats qui ont défendu Patrick Balkany, Cécile Bourgeon, Adrien Quatennens, Michel Fourniret. Les défendre tous, c'est le titre de son livre. Parfois, on se dit quand même, l'avocat, il ne va pas avoir la partie facile. Pourquoi est-ce qu'il défend un type pareil? Et Vincent vient tout à l'heure avec Maître Vavasseur. Maître Vavasseur, c'est l'avocat. Ça a été l'avocat de Michel Fourniret. Il sera avec nous tout à l'heure pour justement parler de comment on défend un type pareil, comment on l'apprend, comment on réagit. Vincent Mantinghem, Maître Vavasseur, tout à l'heure à 11h20. En attendant, parlons impôts.
RMC.
GG, 7 et match.
Alors, il y a deux mots qui n'ont pas été prononcés depuis que l'on a pris l'aggravation des déficits publics. C'est austérité, quoique je ne sais même pas si on doit encore le prononcer, ce mot.
Ça fait 40 ans qu'on
y est. Et puis, il y a augmentation des impôts. Ce matin, Pierre Moscovici, qui est le patron, le boss de la Cour des comptes, voilà ce qu'il disait face à Nella Latrousse en direct sur RMC et BFM TV.
Pour réduire un déficit, il y a trois moyens. La deuxième façon, c'est les impôts, la fiscalité. Je pense depuis longtemps que nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre en la matière parce que nous avons déjà le taux de prélèvement obligatoire aussi le plus élevé de l'Union européenne à 45%. Mais néanmoins,
on augmente pas les impôts ?
Le débat fiscal n'est pas un débat tabou. Et ça, je crois que dans un pays démocratique, ça a toujours été comme ça. On peut se demander si on augmente les impôts, si on les baisse, si on augmente les impôts des entreprises ou ceux des ménages, ceux des plus fortunés ou ceux de tout le monde. C'est la droite, c'est la gauche.
Pour l'instant, Emmanuel Macron dit c'est tabou. Vous dites non, ça ne doit pas être tabou dans une démocratie.
Je dis que le débat fiscal n'est pas tabou, même si, à titre personnel, je pense que j'ai fait, comme ils finance dire, ras-le-bol fiscal, nous ne pouvons pas aller très loin en la matière.
Vous aviez augmenté la TVA de mémoire.
Donc, on y est. Est-ce qu'il faut augmenter les impôts, oui ou non, pour réduire les déficits? Alors, une équipe dit oui, Flora et Bruno. Une équipe dit non, Stéphane et Olivier. La parole au oui, on augmente. Monsieur Bruno Poncet, c'est parti.
Moi, je suis pour l'augmentation des impôts, mais surtout du nombre de personnes prélevées. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu as moins, je crois qu'à peu près la moitié des Français qui sont prélevés, qui ont un impôt sur le revenu déjà.
40% seulement.
Voilà, et ben, tu vois, moi, je trouve qu'il faudrait que tout le monde soit prêt. Même celui qui a très peu de moyens, qui paye 10 euros par mois, 10 euros par an, s'il veut, mais il faut que tout le monde paye pour que tout le monde déjà se sente concerné. Déjà, ça éviterait peut-être un peu des fois la gadget dans ta tête. Et deuxièmement, je vais revenir toujours sur le même truc. Mais à un moment donné, il va falloir quand même aller attaquer les super revenus de tout ce qui est tractation boursière, les super profits, la défiscalisation. Tout à l'heure, on a parlé de Monsieur Mitterrand, mais quand et pas François, mais son neveu, quand on fait la Fondation Vuitton pour défiscaliser sur un terrain non constructible, c'est quand même assez romantique. Ben, je me dis qu'à un moment donné, ce serait bien que défiscaliser les 700 millions que ça a coûté, qu'il les donne à l'État français pour peut-être nourrir les gamins dans les cantines. Donc moi, je dis l'impôt, il faut pas augmenter peut-être le prélèvement, parce qu'on est tous à la gorge, mais je pense qu'il faut aller chercher tout le monde. Tout le monde doit payer. Et les plus riches doivent tous payer plus cher encore. Et tuer le capitalisme. Voilà.
Et que les pauvres deviennent riches. Et que les riches deviennent pauvres.
Je veux surtout pas être riche, moi.
Alors, on y va. Réponse du camp d'en face.
Que des fans.
Est-ce que tu
dis non, pas d'augmentation des impôts. Pourquoi?
Moi, je suis farouchement opposé à l'augmentation, comme à la baisse d'ailleurs des impôts. Pour une seule raison, c'est que j'aimerais d'abord qu'on fasse un audit de comment est employé l'impôt qui est collecté. Ça pose un problème. On parlait tout à l'heure des cantines scolaires où les gamins, on n'a pas d'argent pour pouvoir les nourrir. Je vais te donner un exemple qui, pour moi, est un non-sens. On a dépensé 1,3 milliard d'euros dans des bonus automobiles. L'Allemagne a arrêté, a supprimé, parce que ça ne sert à rien. Moi, j'en ai bénéficié, j'ai acheté 2 véhicules électriques, mais si j'avais pas ce bonus, je les aurais quand même achetés. Parce que de toute façon, tu as déjà, ne serait-ce que dans Paris, la gratuité pour te garer. Donc rien que ça, c'est magique. C'est-à-dire de ne plus te dire, tiens, je vais payer mon parking, etc. Donc rien que ça, c'est une économie en soi. Donc t'enlèves ces 1,3 milliard, tu mets en face, tu réemploies la cantine gratuite pour les gamins. T'as pas dépensé 1 euro, tu n'as pas économisé non plus, oui, mais tu n'as pas dépensé. Et tu réemploies en fait. Et t'es dans un système aujourd'hui où les comptes publics vont exploser, notamment sur les prestations sociales. Nous sommes battus pour que, lorsque tu fais un abandon de poste, tu ne bénéficies plus du chômage, tu n'es plus considéré comme être licencié, donc ouvrant droit au chômage. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu as une pression de dingue des salariés qui vont voir la médecine du travail et qui trouvent toutes les maladies. Non, mais discute avec les médecins du travail.
Ah bah,
tu verras qu'ils ont une pression assez forte aujourd'hui. Et tu verras que c'est un sujet, on va en parler dans quelques mois au GG. Les médecins du travail sont au bord. Les salariés leur mettent une pression de dingue. Ils veulent tous être inaptes pour toucher derrière des prestations. On est dans un monde de fous. Voilà. Il faut mieux encadrer les abus, les chasser, mieux remployer l'impôt qu'on collecte pour les autres.
Flora.
Moi, je rejoins Bruno parce que vous savez, plus la dette.
Comment ? Ça tombe bien, vous faites équipe.
Ça tombe bien, on fait équipe.
Tant mieux.
Je pense qu'on a toujours. À chaque fois qu'on a fait un GGSM ensemble, on a fait équipe, je pense.
Et vous avez gagné ou pas ?
Et on n'a jamais gagné.
Je crois bien, oui.
Vous devriez vous poser des questions.
Je pense qu'on n'a jamais gagné. Par contre, non, très sérieusement, vous savez, plus la dette augmente, plus les intérêts augmentent, plus notre dépendance à la financiarisation internationale augmente. Et donc, ça, c'est quand même un problème aussi de souveraineté.
Ah oui.
Et moi, je suis pour la souveraineté économique. Et vous savez, il y a un président pas si finalement détestable qui disait il y a longtemps, mon ennemi, c'est la finance. La finance n'a pas de visage et pourtant, elle décide. Juste ce propos-là, à l'époque, je pense qu'il n'avait pas été suffisamment compris. Et pourtant, il avait beaucoup de sens. C'est de dire, il y a une chose qui est non visible et non élue qui s'appelle la finance et qui pourtant a le pouvoir. Qu'est-ce qu'on a fait derrière ? On a élu le représentant de la finance, Emmanuel Macron. Ça va faire 10 ans qu'on est dans ce système encore plus qu'avant.
Il était dans un gouvernement
Peut-être que c'est le moment de reprendre le pouvoir. Reprendre le pouvoir, il faut baisser la dette. Par ailleurs, on a un énorme chantier sur la table. Je le répète, c'est la transition écologique. Si on veut faire ce chantier-là, c'est l'occasion de récupérer notre souveraineté. Et comment on fait ça? On fait le rapport Pisani-Ferry qui est sur la table depuis quelques mois et qui nous propose de faire une taxe exceptionnelle sur les ultra-riches pour pour participer au projet national. Comment on peut expliquer que nos patrons, moi je suis fière de nos patrons, j'ai pas de problème avec Bernard Arnault, avec qui vous voulez, ça m'est égal. La question c'est quelle contribution à la société. Moi si je gagne de l'argent, c'est pour contribuer aussi au projet de la transition écologique. Parce que pas de grande fortune sur une planète brûlée.
Okay, s'arrêter.
Mais pas de grande fortune, Flora, sur
une planète brûlée.
Non mais Flora,
ça sert à rien d'être riche si on peut plus respirer.
Flora,
bah, en fait, c'est vrai.
Vous voulez augmenter les impôts et donner encore plus d'argent à des gens qui ne gèrent pas bien cet argent, puisqu'on est tous d'accord pour dire que l'argent est mal géré. Donc en gros, on est tous d'accord pour dire que ça ne va pas dans la santé, la justice, la sécurité, l'éducation. Il y a un problème de gestion. On ne sait pas où va l'argent. Enfin, c'est ça. Il y a un consensus en France. Donc en fait, on veut continuer à donner encore plus d'argent à ces gens qui gèrent mal notre argent. Donc peut-être qu'avant d'augmenter les impôts, il faudrait faire un audit et savoir précisément cette pression fiscale qui est la plus importante d'Europe, à quoi elle sert en fait. C'est très contre-productif en fait cette pression fiscale, puisque derrière, on en a pas pour son argent justement. Et puis, peut-être qu'il faudrait aussi redéfinir les missions de l'État. L'État, ça sert à quoi? Ça doit financer quoi en priorité?
Mais l'État, c'est qui?
L'État aujourd'hui veut s'occuper de tout et s'occupe tout de mal. Alors, donc une fois qu'on aura fait ça, on pourra effectivement dire si oui ou non on doit baisser ou
augmenter. Dès qu'on parle gros sous et dès qu'on parle impôts, vous pouvez imaginer que le 32-16 s'affole. Et le 32-16, c'est Jennifer qui vient d'arriver. Elle nous appelle de la Marne. Bonjour, bonjour. Jennifer.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous avez choisi votre équipe? On augmente ses impôts, oui ou non?
Non, on n'augmente pas les impôts. Je pense que moi, je suis une TPE-PME. On ne fait que de nous taper dessus aujourd'hui. Ah oui. J'ai demandé l'ACRE parce que j'ai rejoint mon mari pour l'aider au fur et à mesure. Mm-hmm. Je paye 1 000, 1 200 euros par mois pour 50 heures par semaine. Et moi, j'en fais 40 et je suis à peu près la même chose. Aujourd'hui, on a droit à rien et on va encore nous taper plus haut et encore plus fort. Et c'est pas possible. Aujourd'hui, on arrive au fur et à mesure en plus vers une guerre où on doit encore donner de l'argent pour l'armée, mais on n'a pas cet argent. Ça... L'hôpital va mal. On n'a pas de médecin, mais on va où? Ils font quoi avec cet argent? Bah, ils se sont tous augmentés. Alors là, tout le monde a été d'accord, de gauche, de droite comme au centre, pour s'augmenter à 300 euros par mois et 700 pour les sénateurs par mois. Ça, alors que nous, on peine à augmenter notre SMIC. Et c'est un coût pour la société et pour les entreprises. Le coût du travail, ça coûte très cher. Et les gens, ils n'ont plus envie. Moi, j'ai des gens qui réfléchissent aujourd'hui à travailler ou à arrêter de bosser et attendre les aides.
Ah ouais.
Parce qu'au final, les gens calculent parce que la cantine devient chère. Aujourd'hui, les parents font des choix d'une école privée parce que l'école publique, c'est la misère. Les gamins qui sont bons vont tomber parce qu'ils sont soit beaucoup, soit... Enfin, ils ne tiennent plus personne ne tient. Et on nous dit, mais tout va bien, Madame la Marquise, on y va. Moi, je suis là, je tape dans... On le voit hier en train de faire de la boxe, mais ils rêvent ou quoi? Il se passe quoi dans leur tête? Qu'ils arrêtent de s'augmenter. Déjà, quand on veut faire de l'austérité, on commence par soi et après on demande aux autres. On montre l'exemple. Quand on est patron, on montre l'exemple à ses employés.
Est-ce que vous étiez bien content de recevoir les ristournes pour l'essence, pour l'électricité aussi?
Nous, on a eu 100 euros déjà pour l'essence. L'électricité, on n'a pas eu le droit. Après, si on parle des aides, du quoi qu'il en coûte, sur 60 000 euros de perdu, on a eu 11 000. Sur les 11 000, sachez que si monsieur se rémunérait avec les 1 500 qu'ils ont donné au tout début, c'était imposable au niveau de l'URSSAF. Donc ils nous retapaient dessus. À un moment donné, on nous tape constamment dessus. Et
donc
c'est
basta. Basta, basta. On arrête, dit Jennifer. Basta. Alors, est-ce que c'est la tendance? Est-ce qu'on doit augmenter les impôts ou pas? Jennifer, qui est artisan coiffeur du côté de la Marne. Une équipe dit oui, une équipe dit non.
Allez, les artisans, votez.
Quelle équipe mène? Vous saurez ça dans quelques instants.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.